On a commencé un parcours de méditation dans la première de Paul aux Corinthiens. Ça fait quelques dimanches et on y est encore. Je vous invite. Alors, je vous propose d'abord peut-être un petit plan parce que c'est bien de se repérer quand même dans une lettre de Paul. Parce que vous avez remarqué qu'on allait un peu à droite à gauche, qu'on picorait, mais en fait, ça, c'est dans une perspective précise. Donc, d'abord, Paul commence comme toutes ses lettres, il dit « Bonjour, comment ça va ?» et puis « Au revoir, à bientôt. » Alors ça, c'est vraiment la manière de... Mais à l'intérieur, il y a quatre grandes parties. Il y a deux parties théologiques qui bordent un peu la lettre. Les deux premières parties, au début et à la fin, qui parlent de l'identité du Christ. Donc, il commence avec, au chapitre 1 et 2, avec le message de la croix, et à la fin, avec le message de la résurrection. Vous voyez comme ça encadre hein, toute l'épître. Deux encadrements théologiques. Et au milieu, il y a deux parties centrales qui sont très longues et qui traitent, une, un peu les problèmes auxquels sont confrontés les chrétiens dans leur vie de tous les jours, on a parlé de ça déjà, dans la ville de Corinthe, il n'en manque pas de ces problèmes, il y a des désordres qui sont liés à la sexualité, il y a même un cas d'inceste qui concerne des personnes de l'Église, semble-t-il, il y a des conflits entre frères et sœurs, on va le voir, qui finissent des fois au tribunal, il y a des inégalités sociales qu'on affiche dans l'Église. Il y a aussi d'autres qui vont acheter de la viande au marché, de la viande qui a été sacrifiée aux idoles. Il y a des tas de problèmes. Et Paul essaie de répondre à la question, là, dans cette partie, comment vivre en chrétien dans une société qui n'est pas chrétienne. Et cette question-là, elle est très pertinente pour notre temps. Hein. Et aujourd'hui, on va se pencher sur la partie qui fabrique cette lettre. Elle s'intéresse non pas aux problèmes de vie quotidienne du chrétien dans la société, mais au vivre ensemble dans l'Église, ce qui quelquefois est tout aussi compliqué. L'Église, entre chrétiens, comment ça marche? Et là, il sera question dans cette partie du culte, de la Sainte Cène, de la prière, des dons spirituels, tout ce qui fait le rassemblement de la communauté. Bon, j'aurais dû mettre un gilet pare-balles avant de monter en chaire ce matin. Non, parce qu'on peut lire des psaumes magnifiques, on peut lire plein de textes dans la Bible, mais c'était aussi écrit. Et en méditant la première aux Corinthiens, ben, fallait bien que j'y tombe. C'est un sujet très chaud, hein, parce que les rapports hommes-femmes n'ont jamais été aussi compliqués, tendus et questionnés qu'aujourd'hui. Dans la société, bien sûr, dans notre société, avec la fin de l'impunité, d'abord pour les hommes qui ont des attitudes déplacées, dégradantes envers les femmes, aujourd'hui, ça finit au tribunal très, très vite, et c'est très bien. Avec les mouvements qui luttent pour plus d'égalité, plus de reconnaissance pour la femme, alors on peut se demander quand même ce que ces réflexions de Paul... que certaines surtout, jugeront très datées, voire inacceptables, vont bien pouvoir apporter au débat de notre société, et de l'Église surtout. À part la lapidation du pasteur. Alors, il faut tout de suite poser un petit balisage pour éviter les fausses routes. Hein, on va prendre cette précaution. Il y a deux écueils à éviter quand on lit la Bible, et en particulier cet épître de Paul aux Corinthiens. Le premier écueil, c'est l'écueil de l'anachronisme. Paul a écrit sa lettre il y a 2000 ans. Pas la semaine dernière, il n'était pas invité sur CNews pour commenter la société. Ne lui reprochons donc pas de ne pas être tout à fait en phase avec les préoccupations, nos préoccupations du moment. Première chose. Et à l'inverse, n'accueillons pas ces recommandations d'il y a 2000 ans, comme la feuille de route à appliquer à la lettre, je dis bien à la lettre, dans l'Église. Mais à l'inverse, ne rejetons pas ce que Paul est en train de dire d'un revers de main sous prétexte qu'il n'est plus dans le temps. Paul dit que notre rapport au monde est, à propos de notre façon de vivre l'Église, il dit des choses essentielles qui nécessitent un travail d'interprétation. Sans cela, en fait, sans interprétation, on aboutit à des aberrations. Et on pourrait demander, par exemple, que toutes les femmes, ce matin, on aurait pu leur distribuer un voile à l'entrée. Voilà. Et on touche là au deuxième écueil. C'est notre rapport à l'autorité des Écritures. Le texte est là, sous nos yeux. Et il ne nous revient pas de le réécrire comme ça nous arrange, à notre convenance. Mais ce texte ne doit pas être accueilli comme un code. Quand j'apprends le code de la route, il ne faut surtout pas commettre l'erreur d'interpréter les panneaux. Au feu rouge, je m'arrête. Ça ne dépend pas de la densité du trafic, de la visibilité, de tout ça, plein de facteurs. J'applique à la lettre sans réfléchir. Avec la Bible, ça ne marche pas comme ça. La Bible n'est pas un code de la foi. Elle ne nous demande pas de suivre la lettre de ses écrits, mais elle nous invite à en chercher le message, le sens. Elle fait de nous, en fait, des lecteurs. C'est-à-dire des acteurs responsables de leur lecture. L'idée ici n'est pas d'accuser ou de défendre Paul, mais de comprendre ce qu'il cherche à nous dire et de chercher à entendre l'évangile du Christ dans ses paroles, de capter l'universalité de son message. Cette universalité-là, elle est bonne nouvelle pour tous en Jésus-Christ. Il reste un peu de travail à faire. Je repère trois choses importantes dans ce qu'exprime Paul sur les rapports hommes-femmes dans la communauté et dans la vie. Trois choses dont nous avons besoin, nous aussi sans doute, chacun le méditera comme il le souhaite. Première chose, c'est la différence, notre rapport à la différence. La seconde chose, c'est l'égalité, notre conscience, notre rapport à l'égalité entre tous. Et enfin, c'est une conséquence des deux premiers points, la relation, la communion fraternelle. Hein ? Différence, égalité et communion. La différence entre, premier point, entre les hommes et les femmes, plus largement la différence, on va dire la différence individuelle, c'est la première réalité à accueillir et à vivre dans l'Église. On en parlait hier soir avec le groupe de jeunes, c'était un moment très, très chouette, parce que ce groupe est un peu à l'image de l'Assemblée, il est très diversifié dans ses origines, ses provenances, ses cultures, il est intergénérationnel, il est multiculturel, tout ce qu'on veut. Et nous allons chercher à comprendre comment ça marche, cette différence. Parce que s'il n'y a pas de reconnaissance de l'autre dans sa différence, eh bien, ça pose un problème pour soi. C'est-à-dire que je ne peux même pas savoir qui je suis. Je ne peux pas me distinguer de l'autre, me distancier un peu. Et je ne peux plus me comprendre moi-même s'il n'y a pas cette distance entre moi et l'autre. Mais cette prise de conscience de la différence, elle ne doit pas devenir une source d'égalité, d'injustice. En Christ, les uns, les unes, les autres sont égaux devant Dieu. Et nous allons voir maintenant comment Paul applique ce triple principe différence, égalité et communion à la communauté de Corinthe, accessoirement à celle de Pessac. Et je commencerai par citer une parole de Paul, une autre parole de Paul dans l'épître aux Galates. Elle est très importante parce qu'elle pose un principe. Vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ, Galates 3, 28. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ou païen, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Ce que vient de dire Paul là n'est pas une parole de circonstance. C'est une conviction immense et d'une nouveauté radicale pour son temps. Paul n'est pas aveugle, il voit bien que la société de son temps est structurée par des catégories religieuses, sociales, humaines. Il y a un monothéisme et des paganismes. Il y a des gens libres et des esclaves. Il y a la différence sexuelle des hommes et des femmes. Paul ne nie pas la réalité. Il ajoute cette surréalité qu'en Jésus le Christ, les catégories humaines éclatent pour laisser paraître un monde nouveau, la naissance d'un monde nouveau. Et ce monde nouveau, on peut le traduire comme ça, il n'y a plus fondamentalement que des êtres aimés, pardonnés, appelés, sauvés. Des êtres libérés intérieurement de toute forme d'aliénation religieuse, sociale, humaine. Les communautés que Paul a fondées avaient pour vocation à vivre cette profonde transformation des relations. Et en fait, Paul, en disant cela, il ne fait qu'imiter son maître, Jésus le Christ. Vous l'avez suivi sur les chemins de Galilée, lui non plus ne faisait pas de différence entre juifs et grecs. Il mangeait chez les notables et il passait son temps, le plus clair de son temps, avec les pauvres, les malades, les impurs, les adultes et les enfants. Les enfants, à l'époque, on ne les calculait pas. Les hommes et les femmes. Il bousculait les ordres établis. Et on n'imagine pas la bombe que représente cette parole de Paul dans le monde totalement patriarcal, du reste qu'il soit juif ou qu'il soit grec. Alors, certains spécialistes du monde gréco-romain, d'Antiquité, précisent que dans ces sociétés païennes patriarcales, les femmes de haut rang, dans les grandes villes, avaient tendance à s'émanciper. Et il arrivait même que certaines, dans des activités cultuelles, cessent de porter le voile. Parce qu'on ne le portait pas qu'à l'église, le voile. Alors je reviens à Paul et à nos Corinthiens. Corinthe, c'est la ville de tous les excès. Tous les excès religieux, il y a des temples païens à tous les coins de rue. C'est une ambiance complètement folle et qui déteint sur l'église. Les chrétiens de Corinthe sont des excessifs, sont des Corinthiens. C'est presque synonyme, ça. Et cela cause beaucoup de difficultés. Tout est permis, oui, mais tout n'est pas utile. Les amis, avertira Paul avec subtilité, recherche d'équilibre devant le spectacle de cette église de Corinthe. Certaines femmes de la communauté, prenant appui sur le principe évangélique d'égalité affirmé ici, entre hommes et femmes, faisaient du principe paulinien leur credo. Elles instrumentalisaient la liberté au service de leur cause, sans se préoccuper le moins du monde de la façon dont les frères et les sœurs pouvaient, dans l'Église, comprendre cela et recevoir cela. Elles se saisissaient, ces dames, du tout est permis de Paul, et elle s'asseyait sur le « tout n'est pas constructif ». D'ailleurs, un peu comme les consommateurs de viande sacrifiés aux idoles de dimanche dernier, vous vous souvenez, en mangeant ces viandes-là, ils disaient « ma liberté d'abord, les autres n'ont qu'à bien se tenir et grandir un peu dans la foi ». Ces attitudes-là avaient fini par mettre le feu aux relations fraternelles avec, d'un côté, des personnes scandalisées, brisées, en colère, qui se réfugiaient dans des postures défensives, on va dire conservatrices, et de l'autre, des personnes qui brandissaient leurs droits, leur liberté, au mépris du lien fraternel. Cette liberté était devenue une source de confusion pour la foi, et aussi elle engendrait la rupture des relations. Pour Paul, l'émancipation des femmes, c'est-à-dire l'accès concret à l'égalité, c'est un fruit de l'Évangile. C'est indiscutable. Mais si cette égalité se justifie pour elle-même, en faisant la guerre à ceux qui ne sont pas encore capables de la comprendre et de la vivre, alors elle devient son contraire, elle se transforme en une nouvelle forme d'enfermement, d'aliénation, source de conflit. Pour Paul, dans l'Église doivent s'articuler ces trois réalités. Accueil de la différence, prise en compte de la différence, égalité entre tous et la communion fraternelle. Quand l'un ou l'autre de ces piliers est abandonné, l'Église devient un champ de bataille. Dans le raisonnement, vous avez sans doute été frappé par l'insistance de Paul sur la différence, le premier point. Un homme, ce n'est pas une femme, la longueur des cheveux, le voile, ce sont là les marqueurs de la différence sexuelle de cette époque. Et inversement, pour l'homme, il y a aussi des marqueurs. Un homme qui prie avec un voile ou avec des cheveux longs se déshonore, dit Paul. Paul est très catégorique. Surtout quand le culte devient une occasion d'abolir ces différences qui sont structurantes dans une société donnée. Paul s'y oppose, oui, parce qu'il dit que s'il n'y a plus de différence, alors il n'y a plus de possibilité d'être en relation les uns avec les autres, parce qu'il n'y a pas de relation dans l'entre-soi. Dans, Paul Ricoeur parlera de la mêmeté, différence de la différence, du mot différent, la mêmeté. Il n'y a de relation possible que dans l'expérience de l'altérité, de la différence. Autant chez les Galates, Paul avait été clair avec le principe évangélique d'égalité homme-femme, autant ici, on le sent, Paul, mal à l'aise. On l'a lu hein, tout à l'heure, un homme ne doit pas se couvrir la tête d'un voile, puisqu'il est l'image, la gloire de Dieu, la femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Bon, Paul essaie ici de justifier la différence homme-femme, Bible en main, devant les Corinthiens. Et il a choisi pour ça le récit de la création selon Genèse 2, où la femme est créée à partir de la côte, vous savez, hein, de l'homme. Récit qui vient finalement en soutien des postures qui défendent une inégalité entre hommes et femmes. Paul aurait très bien pu choisir le récit de Genèse 1, qui n'établit pas les mêmes rapports entre hommes et femmes. Dieu créa l'humanité à son image. Il la créa, homme et femme, l'humanité. Ce n'est pas le même discours. Alors pourquoi Paul fait-il cela? Pourquoi Genèse 2 plutôt que Genèse 1? Pourquoi reprend-il d'une main aux Corinthiens ce qu'il vient de donner aux Galates? Il y a eu différentes réponses qui ont été données à cette question importante. Certains ont répondu que Paul avait finalement reculé. Ah, comme certains politiques font, vous savez, devant telle ou telle situation. On révise le discours. Que face au conflit, il a fait profil bas. Vous imaginez bien que cette lecture-là ne me convient pas trop. Hein. Parce que je crois que Paul est beaucoup plus malin que ça. Et aussi beaucoup plus honnête que cela. Je crois au contraire qu'il est en train de caresser dans le sens du poil les plus conservateurs de la communauté pour mieux les retourner. Après avoir rappelé le fondement biblique de la différence, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, etc. Il ajoute, j'avance une diapo, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. En effet, tout comme la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme et tout vient de Dieu. Paul achève ici, vous le voyez sur la diapo, son raisonnement par l'affirmation de la stricte réciprocité homme-femme sous le regard de Dieu. Et cet ultime raisonnement est encadré par deux références au Seigneur. Dans le Seigneur est tout vient de Dieu. Le premier et le dernier mot, ici, n'est ni à l'Église, ni à Paul, mais à Dieu seul. Quant à Paul, finalement, ici, il semble qu'il se soit appliqué à lui-même le principe énoncé dimanche dernier. Faites attention à ne pas démolir la foi des plus fragiles au nom de votre liberté. OK. Mais vous voyez que Paul n'est pas en train de rédiger un traité de théologie sur l'Église idéale. Il s'adresse à de vrais gens qui souffrent de vrais problèmes et de mauvaises relations dans une Église particulière. En fait, il s'adresse à tous. Il aurait pu dire aux conservateurs, les conservateurs patriarcaux de l'Église de Corinthe, « Vous avez raison, mes frères, que les femmes se taisent dans l'assemblée, qu'elles se voilent. » D'ailleurs, il le dira en 1 Corinthiens 14, mais il faudrait comprendre dans quelle contextualité. Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi de dire ici. Il dit que toute femme qui prie ou qui parle en prophétesse, la tête non couverte d'un voile fait honte à sa tête. Quoi ? J'ai bien lu ? Toute femme qui prie, on pourrait traduire aussi qui prêche l'Évangile, puisque le service prophétique dans l'Église est assuré par la prédication. Non couverte d'un voile fait honte à sa tête. Si Paul est en train de fermer la porte d'une liberté d'un côté, les femmes doivent se voiler, dit-il, il est en train d'ouvrir grand les fenêtres en autorisant la prédication des femmes dans l'Église. Elles peuvent prêcher et prier comme les hommes, les termes sont rigoureusement les mêmes, pendant que les conservateurs patriarcaux sont en train de filtrer le moucheron des convenances, le voile est sauvegardé. Eh bien, le chameau de la liberté vient de faire son entrée dans l'Église, et cela dans le Seigneur. Alors, encore un mot sur ce voile. Il est dit qu'il est une marque d'autorité. Mais de l'autorité de qui ? De l'homme ? Ce serait quand même avoir une courte vue sur ce que dit Paul, là. L'ultime autorité qui se trouve sur la tête de la femme et sur la tête de l'homme, et même sur la tête du Christ. À cause des anges, vous avez dit, mais alors ça, j'ai pas voulu m'y arrêter, ça faisait trop long, mais bon, peut-être qu'il y aurait là des choses qui s'expliquent par le contexte de Corinthe et le culte des anges, enfin, etc. Mais ici, le voile dans le contexte corinthien, c'est le signe que celle qui prêche ou qui prie le fait au nom du Seigneur. et non pas en son nom propre, ou au nom de son, de sa liberté. Pas du tout. Et je m'arrête là. En ce jour de rentrée d'église, je crois qu'il peut être très utile de méditer cette manière de faire église ensemble. Dans le respect des différences, dans la recherche de l'égalité entre tous, pour des relations interpersonnelles, pour une communion vraie et constructive. Amen.